France Inter.
Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce vendredi soir, l'Allemagne, la France et la Pologne se disent unis sur l'Ukraine et résolus à ne jamais laisser la Russie gagner. Lors d'une réunion à Troyes, à Berlin, Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Donald Tusk se sont également mis d'accord pour ne jamais prendre l'initiative de l'escalade. Nous serons à Berlin dans un instant. En Russie, on vote pour la présidentielle jusqu'à dimanche. Un scrutin où la victoire de Vladimir Poutine est connue d'avance. Premier jour de vote, marqué par de nombreux incidents. Dans ce journal également, Bruxelles a présenté sa réforme de la PAC sous la pression de la mobilisation des agriculteurs. Un texte qui remet en cause les acquis gouvernementaux de la politique agricole commune. Coup de tonnerre dans les médias, l'armateur CMA-CGM du milliardaire Rodolphe Saadé va racheter Altice Média de Patrick Drahi, qui comprend BFM TV et RMC. Et puis la justice se saisit de l'affaire Aya Nakamura. Une enquête est ouverte après des publications racistes visant la chanteuse. À 19h20, le téléphone sonne à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil et c'est important de bien dormir. On attend vos appels 01 45 24 7000.
France Inter.
Objectif pour Emmanuel Macron, se réconcilier avec Berlin.
Oui, l'Allemagne, la France et la Pologne ont affiché leur unité cet après-midi après les tiraillements entre Berlin et Paris sur l'aide à l'Ukraine. Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Donald Tusk se sont donc retrouvés à Berlin. Ils ont renouvelé leur soutien à Kiev et assuré parler d'une même voix. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Correspondant de France Inter à Berlin, vous avez assisté à la rencontre Opération Réconciliation.
Oui, même si sur le fond, rien n'a changé. Les dirigeants campent sur leur position. Des troupes au sol, pourquoi pas, dit Emmanuel Macron. Ce à quoi Olaf Scholz s'oppose un non catégorique. Mais ça, les deux hommes se le sont dit en tête à tête lors d'un échange à huis clos, loin des micros, loin des caméras. Car l'enjeu cet après-midi, c'était de montrer l'unité retrouvée, réelle ou supposée, d'oublier les différences, de trouver les points communs. Le chancelier Olaf Scholz le rappelle, les alliés partagent le même objectif.
Nous sommes étroitement et indéfectiblement aux côtés de l'Ukraine. Plus que jamais, notre unité est notre force. La solidarité et l'action commune sont indispensables pour défendre la paix et la liberté en Europe. Le président russe doit savoir que nous ne relâcherons pas notre soutien à l'Ukraine.
Les alliés promettent aussi de fournir à l'Ukraine de l'artillerie longue portée, d'acheter sur le marché international les armes et munitions dont Kiev a besoin. Un soutien dans la durée, promet Emmanuel Macron.
Nous ferons tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que la Russie ne puisse gagner cette guerre. Et nous continuerons, comme nous l'avons fait depuis le premier jour, à ne jamais prendre l'initiative de quelque escalade. C'est notre sécurité et notre avenir qui se jouent également en Ukraine. Le moment est grave, c'est une époque nouvelle qui s'ouvre. Et nous serons au rendez-vous.
Les dirigeants se retrouveront dès la semaine prochaine à Bruxelles pour un sommet européen, l'occasion, si nécessaire, de parfaire les relations entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron.
Sébastien Baer, en direct de Berlin, merci. Et donc, pendant que Paris, Berlin, Varsovie affichent leur unité, en Russie, on vote pour l'élection présidentielle pendant 3 jours jusqu'à dimanche. 118 millions de Russes participeront à un scrutin où la victoire de Vladimir Poutine est connue d'avance. En direct de Moscou, on retrouve le correspondant de France Inter. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Frédéric.
Un premier jour de scrutin marqué par de nombreux incidents dans plusieurs bureaux de vote du pays.
Oui, effectivement, à Saint-Pétersbourg, une femme a jeté un cocktail Molotov sur un bureau de vote sans faire de blessés. À Moscou, une autre femme a mis le feu à un isoloir. On a vu des images assez spectaculaires sur les réseaux sociaux. On a vu également dans plusieurs bureaux de vote des personnes venir et remplir les urnes avec un liquide de couleur verte à Novosibirsk, à Voronezh notamment. En tout, 13 personnes ont été interpellées. Il semble que la surveillance ait été renforcée ce soir autour des bureaux de vote. Cela peut traduire dans une certaine mesure le climat de tension latent qui traverse le pays depuis des mois, mais il faut rester prudent sur les motivations de ce genre d'acte. On a eu l'été dernier, déjà en Russie, une vague d'attaques contre des commissariats militaires qui étaient menés par des personnes âgées, 80 ans parfois, dont il s'était avéré qu'ils étaient manipulés par des escrocs qui leur avaient soutiré de l'argent et demandé de commettre ces actes pour le récupérer. Moscou avait dénoncé à l'époque des actions en provenance d'Ukraine. Les autorités russes accusent de nouveau Kiev aujourd'hui de chercher à perturber les élections. La plupart des actions commises aujourd'hui l'ont été par des femmes et l'incendiaire de Moscou avait 83 ans.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, merci. Et peu après l'ouverture des bureaux de vote en Russie, les missiles russes ont été tirés sur la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine. Au moins 16 personnes ont été tuées et près d'une soixantaine blessées dans l'une des attaques russes les plus meurtrières à Odessa. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky condamne l'attaque russe qu'il qualifie d'ignoble. En bref encore, et concernant la situation à Gaza, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken indique ce soir que les pays médiateurs travaillent d'arrache-pied pour combler le fossé restant en vue d'un accord sur les otages et sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Israël va envoyer une délégation à Doha, au Qatar, dans le cadre des négociations, mais dans le même temps, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a approuvé les plans de l'armée israélienne en vue d'une offensive à Rafah, au sud de la bande de Gaza. De son côté, le Hamas, qui exigeait jusqu'ici un cessez-le-feu définitif à Gaza avant tout échange d'otages israéliens contre les prisonniers, est désormais prêt à une trêve de 6 semaines. Par ailleurs, l'aide humanitaire arrivée par bateau à Gaza a commencé à être déchargée. Le premier bateau amenant de l'aide via un couloir maritime ouvert depuis Chypre décharge sa cargaison de 200 tonnes de vivres.
Après la mobilisation des agriculteurs en Europe, voilà une nouvelle réponse à la crise agricole.
Oui, Bruxelles a dévoilé sa réforme de la PAC en détricotant une bonne partie des règles vertes de la politique agricole commune. Bonsoir Angélique Bouin.
Bonsoir.
Correspondante de France Inter à Bruxelles. Alors quelles sont les mesures sur la table ?
Eh bien, sur l'obligation de mise en jachère de 4% des sols cultivables, qui avait cristallisé la colère, la Commission jette l'éponge. Après avoir repoussé sa mise en œuvre, elle la rend optionnelle. Ce ne sera plus une condition pour toucher des aides, mais ceux qui le feront auront une prime. Bruxelles propose aussi d'alléger l'obligation de rotation des cultures, fustigée par certains syndicats. Les aléas climatiques ou les particularités régionales seront mieux prises en compte. Autre changement majeur, les fermes de moins de 10 hectares ne seront plus ni contrôlées ni pénalisées sur leurs obligations environnementales. Certes, elles représentent 65% des bénéficiaires de la PAC, mais elles ne couvrent que 10% de la surface agricole européenne et ne touchent surtout que 11% des aides.
Une réforme de la PAC, Angélique, est une perdante, l'écologie.
Oui, les Verts dénoncent ce soir un démantèlement électoraliste de l'architecture verte de la politique agricole commune. Ce qui est sérieusement écorné, c'est en effet le principe de conditionnalité des aides à des pratiques vertueuses. Mais un tiers du budget total reste sanctuarisé pour récompenser et distribuer des primes aux agriculteurs qui jouent la carte de la transition écologique, insiste-t-on à la Commission. Cette réforme, qui doit encore être validée formellement, va surtout profiter aux grosses exploitations, fustige de son côté Pascal Canfin, qui préside la Commission Environnement du Parlement européen.
Angélique Bouin, en direct de Bruxelles, merci. L'actualité en France et ce coup de théâtre dans l'audiovisuel. Le groupe CMA-CGM, propriété du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, annonce avoir signé une promesse d'achat en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Altice Média, qui comprend notamment BFM TV et RMC. L'hypothèse circulée depuis des mois, accréditée par les besoins pressants de Patrick Drahi, propriétaire et fondateur d'Altice en argent frais, et l'envie de Rodolphe Saadé, PDG de CMA-CGM, de consolider le groupe de presse qu'il est en train de constituer. Depuis ce matin, le projet est devenu concret et devrait permettre à l'armateur de CMA-CGM de constituer sur le long terme un pôle média de référence. Philippe Brun, député PS de l'Eure.
On a vu depuis maintenant 2 ans la collusion très forte entre le groupe CMA-CGM, la famille Saadé et le gouvernement. Il se trouve que CMA-CGM bénéficie d'une niche fiscale particulièrement avantageuse. L'entreprise paye son impôt sur les sociétés en fonction du volume des bateaux et non en fonction de ses bénéfices réels. Résultat, c'est un manque à gagner de 9 milliards d'euros sur les 2 dernières années qui a permis au groupe d'engager de très juteux bénéfices qui sont aujourd'hui réinvestis dans la presse. La Tribune Dimanche, qui est un journal proche du gouvernement, qui soutient le gouvernement, et maintenant l'achat de BFM TV et de RMC. Faisons attention au renvoi d'ascenseur. Nous devons rester très vigilants quant à l'indépendance de cette entreprise vis-à-vis du gouvernement.
Philippe Brun, député PS de l'Eure, avec Marie Mollet. La justice se saisit de l'affaire Aya Nakamura. Une enquête est ouverte après les publications racistes visant la chanteuse et après un signalement de la LICRA. Un groupuscule de l'ultra-droite, les natifs, avaient posté sur des réseaux une photo d'une banderole à caractère raciste au préjudice d'Aya Nakamura, dénonce la LICRA. SOS Racisme annonce également avoir saisi la justice. Bonsoir Delphine Evenou.
Bonsoir.
La chanteuse de 28 ans qui pourrait chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO était la cible de l'extrême droite.
Oui, et même si rien n'est confirmé par la chanteuse, ni par l'Élysée, ni par le comité organisateur, ce groupe, les natifs qui se revendiquent parisiens fiers et enracinés, s'empare du sujet le week-end dernier avec une publication sur la plateforme X, une photo d'eux bien cachée derrière une grande banderole où l'on peut lire « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Aya Nakamura est franco-malienne et la LICRA, à l'origine du signalement, relève plusieurs passages délictueux dans le texte qui accompagne la photo, je cite « Remplacer l'élégance française par la vulgarité, africaniser nos chansons populaires et évincer le peuple de souche au profit de l'immigration extra-européenne ». Tina Théalet est responsable du service juridique de la LICRA.
Nous, quand on a pris connaissance de ces propos, on les a qualifiés juridiquement, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'ils caractérisaient une infraction, à savoir une injure à caractère racial, une injure publique et une provocation publique à la haine et à la discrimination à caractère racial. C'est la raison pour laquelle on a décidé de le signaler au procureur de la République.
Et l'association SOS Racisme annonce donc également saisir la justice. C'est le pôle national de lutte contre la haine en ligne qui est chargé de l'enquête. Aya Nakamura est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Et si elle a subi un raid numérique dans la foulée de la publication des natifs, elle a également reçu de très nombreux soutiens.
Delphine Evenou, merci. À Dijon, un élève d'un collège de la banlieue de la ville a été interpellé cet après-midi après avoir menacé avec un couteau la principale du collège sans la blesser. L'alarme a été déclenchée et le collégien de 3e a donc été interpellé, Ariane Gressel.
Oui, les faits se sont produits à Chenauve, au collège Édouard Herriot, un lieu décrit comme ordinaire, pas connu pour des faits de violence. L'adolescent y est scolarisé depuis la Toussaint. Il a dû quitter un établissement précédent pour des raisons de discipline. Ce matin, l'élève est exclu d'un cours, là aussi à cause de son comportement. Il demande alors un rendez-vous avec la principale. Elle le reçoit cet après-midi. Une fois dans le bureau, l'adolescent tend un courrier à la chef d'établissement et dans la foulée sort donc ce couteau. La principale réussit à s'enfuir par une autre porte. Elle déclenche l'alarme anti-intrusion. Une partie des élèves est évacuée, une autre confinée. Une patrouille de police passe par la pile à ce moment et est donc sollicitée pour aller désarmer et interpeller ce collégien. Il a depuis été placé en garde à vue pour violence et introduction d'armes dans un établissement scolaire et également pour menace de mort. Le procureur de Dijon précise que ce courrier qu'il transportait faisait référence aux attentats du 13 novembre 2015. Le procureur qui ajoute que, pour le moment, le parquet national antiterroriste n'est pas saisi de ces faits.
Ariane Gressel, merci.
La suite de votre journal, Frédéric Barrère, avec ce douloureux anniversaire. C'était il y a 13 ans en Syrie. Débutait la révolte contre le régime de Bachar al-Assad.
Une révolte et une guerre avec un bilan effrayant, plus de 500 000 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le 15 mars 2011, dans le sillage des printemps arabes, des centaines de milliers de Syriens descendent dans les rues pour demander la fin de la dictature. Rapidement, les manifestations pacifiques sont réprimées dans le sang et le soulèvement populaire devient une guerre civile sans fin. 13 ans plus tard, la guerre continue de faire des morts, 4 000 de plus en un an. Et Bachar al-Assad est toujours à la tête du pays, un pays à genoux, Noé Pignad.
Après 13 ans de guerre civile, la Syrie continue de se déchirer en silence. Les affrontements entre le régime et les rebelles sont devenus plus sporadiques, certes, mais les habitants de la province d'Idlib, dernière enclave qui résiste toujours à Bachar al-Assad, sont encore très régulièrement bombardés. La guerre a fait 4000 morts de plus en un an, des victimes qui s'ajoutent aux demi-millions de morts recensés depuis 2011. Le conflit a aussi fait plus de 100 000 disparus, assassinés ou toujours torturés dans les prisons du régime. C'est cette répression sanglante et surtout le soutien militaire de la Russie et de l'Iran qui ont permis à Bachar al-Assad de se maintenir au pouvoir. Mais il est aujourd'hui à la tête d'un pays en ruine. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté et l'aide humanitaire est en chute libre. Le programme alimentaire mondial a même été contraint d'arrêter ses distributions de nourriture faute de financement. La famine menace et le pays continue de se vider de ses habitants épuisés. Beaucoup de Syriens tentent toujours de prendre la mer pour rejoindre l'Europe au péril de leur vie.
On revient en France avec l'actualité sportive de ce week-end et du rugby à 24 heures du crunch. France-Angleterre demain soir à Lyon lors de la dernière journée du tournoi des Six Nations. La France reçoit son meilleur ennemi avec encore la possibilité très mince de remporter le tournoi. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Frédéric.
En direct de Lyon, dernier entraînement cet après-midi, le traditionnel entraînement du capitaine.
Oui, sous le soleil et dans un Groupama Stadium qui sera plein demain, 60 000 spectateurs, match à guichet fermé, dernier entraînement à petit trot, comme c'est toujours le cas la veille de match, sans le troisième ligne Charles Olivon, l'un des cadres de l'équipe, absent pour des raisons personnelles, mais qui sera bien présent demain soir pour ce crunch. Le capitaine Grégory Aldrit a donné ensuite une conférence de presse. Il a rappelé que les Bleus, à l'occasion de leurs deux premiers matchs à domicile, avaient beaucoup déçu. Une lourde défaite face à l'Irlande et un nul face à l'Italie. Selon lui, il est temps que cela change.
On n'a pas toujours rassasié nos supporters, on n'aura pas toujours offert ce qu'on voulait, donc demain on a une chance de le faire. Ça sera pas évident, mais en tout cas on est déterminé et on veut sortir une grosse performance pour les rendre fiers, parce qu'après voilà, on sait que c'est la fin du tournoi et on retrouvera l'équipe de France que cet été.
Oui, cet été pour une tournée en Argentine, mais l'avenir immédiat pour les Bleus, c'est donc ce France-Angleterre. Deux équipes qui se sont relancées le week-end dernier. Large succès des Français à Cardiff face au Pays de Galles. Très belle victoire des Anglais face à l'Irlande. Demain soir, c'est la deuxième place du tournoi qui, a priori, sera en jeu dans ce crunch, sachant que, sauf invraisemblable scénario, l'Irlande, qui reçoit l'Écosse demain à Dublin, devrait remporter ce tournoi pour la deuxième année consécutive.
Vincent Pellegrini, France-Angleterre qu'on envoie à 21h, hein?
Absolument.
Merci Vincent. Du football avec les tirages au sort des quarts de finale des Coupes d'Europe. Le Paris Saint-Germain a hérité du FC Barcelone en Ligue des Champions. Marseille de Benfica en Ligue Europa. Et Lille affrontera les Anglais d'Aston Villa en Ligue Europe Conférence. Des tirages plus ou moins favorable pour les clubs français.
On va terminer ce journal, Frédéric, avec une jeune artiste qui ose peindre des sujets que l'on n'a jamais vus représentés en peinture.
Oui, Nathanaël Herbelin, peintre franco-israélienne. Elle expose au musée d'Orsay des scènes d'intimité troublantes et audacieuses, l'allaitement, l'épilation, un homme nu à l'anguille dans sa baignoire, des toiles qui sont mises en dialogue avec des œuvres du musée d'Orsay qui l'ont beaucoup inspiré. Isabelle Pasquier.
Quand le musée d'Orsay lui a proposé une exposition, Nathanaël Herbelin était sous le choc. Elle a cru à une plaisanterie. Elle qui s'est tellement inspirée des chefs-d'œuvre du musée d'Orsay, de Bonnard, Vuillard et Valoton. Mais ces toiles, proches des nabis, reflètent pourtant bien la vie d'aujourd'hui. Un ordinateur, une mélancolie contemporaine, un couple séparé et l'intimité sans tabou, le plaisir féminin et des scènes quotidiennes jamais représentées dans la peinture. Une jeune fille de profil enfile délicatement sa petite culotte, une autre s'épile le maillot. Nathanaël Herbelin touche à l'intime au quotidien.
J'aime beaucoup peindre les choses qu'on ne voit jamais en peinture. Ce petit tableau de Cécilia qui met sa culotte, parce que qu'est-ce que c'est beau de voir cette femme s'habiller. Alors c'est vrai, j'ai aussi peint cette scène d'épilation et je trouve que si Bonnard était une femme, il aurait pu peindre ça.
Pour Nathanaël Herbelin, la peinture révèle ce qui traverse intérieurement les corps.
Avec le corps, je pense que je peux faire passer le désir, beaucoup beaucoup de sentiments, des phénomènes plutôt intérieurs qu'on voit sur un corps. Tout ce qui m'intéresse, c'est sentimental.
Parmi ces toiles les plus sensibles, ce couple qui dort comme deux enfants, une image couleur pastel de l'insouciance du bonheur amoureux.
Exposition Nathanaël Herbelin jusqu'au 30 juin au musée d'Orsay, Eric.
Voilà pour votre journal, Frédéric Barrère. Le temps de demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonsoir Élodie Calac.
Bonsoir à tous.
Avec un temps bien nuageux au nord, demain et ensoleillé au sud.
Exactement, de l'Aquitaine vers les Alpes et la Méditerranée, le soleil prendra l'avantage. Alors patience quand même le matin, il faudra composer avec pas mal de nuages au nord de la Garonne jusqu'au nord des Alpes. Mais c'est bien le soleil qui s'imposera l'après-midi, un petit peu voilé du côté de l'Aquitaine. Il y aura du vent en Méditerranée jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. Sur la moitié nord, un ciel souvent gris le matin avec quelques gouttes à l'ouest et sur le nord-est également. On trouvera quelques éclaircies entre la baie de Seine et le Pas-de-Calais et qui s'étendront au nord de la Seine l'après-midi en région parisienne et vers la Bourgogne.
Et les températures températures seront douces demain?
Oui, 6 à 11 degrés demain matin. Et puis l'après-midi, 13 degrés à Lille, 15 à Dinard, Paris et Mulhouse, 16 degrés à Toulouse, à Tours et Clermont-Ferrand, 19 à Grenoble, à Toulouse, 20 à Bordeaux et Marseille, 22 à Bayonne, 23 à Perpignan. Dimanche, le soleil l'emportera encore sur les régions du sud. Au nord, pas mal de nuages. De nouvelles pluies circuleront du nord-ouest jusqu'au nord de la Seine. Et puis la douceur va s'accentuer encore un petit peu avec une moyenne de 16 degrés attendue sur les régions du nord et de 20 degrés au sud.
Je peux vous embêter, après le week-end, le lundi, le mardi, c'est...
Encore de la douceur et puis un temps un peu plus perturbé.
Élodie Calac.